Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Erchin, page 14, Daf Yud Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Et là, Milta Agav Urheka Mashmelan. Par l'occasion, la Mishnah a voulu nous apprendre autre chose que de Rav Yehuda Amarav, comme nous l'apprenait Rav Yehuda au nom de Rav. D'Amar Rav Yehuda Amarav. Assur la Adam Sheomar Kamana Eknaanize. Il est interdit à un homme de dire sur un non-juif comment elle est belle, cette personne-là. C'est pour cela que la Mishnah préférait dire Nae Shebe Israël, une belle personne d'Israël, et non pas un non-juif. Demande la Gemara Velitne et Anae Shebe Israël, Vet a Kaur Shebe Knaanim. Alors la Mishnah aurait dû écrire une belle personne du peuple d'Israël, ou bien quelqu'un qui est laid, non-juif. Comme ça on aurait compris qu'on peut prononcer le vœu estimatif sur le non-juif. Répond la Gemara, Bechad Uma Kamaire, Betre Uma Lomaire. La Mishnah préférait parler d'un peuple et non pas de deux peuples. Demande la Gemara, Velo, est-ce que c'est vrai que le Tana n'a pas parlé de deux peuples? Vaktani, il est écrit dans la Mishnah du Daf Tetvav, Hagdola Sheba Keuna, Vetaktana Sheba Israël, à propos de celui qui a sorti une mauvaise réputation sur une fille, soit s'il l'a fait sur une extrêmement importante de la tribu des Kohanim, soit s'il l'a fait sur une de rang inférieur de la tribu d'Israël, il va payer de toute façon une somme fixe. Donc la Mishnah a parlé de deux tribus différentes. Pour la Gemara, en effet, mais Hatam, Chad ou Maou. En fin de compte, les deux tribus appartiennent à un peuple. Simplement, et la Makdish Houd Kitche Kohanim Tfe. Les Kohanim sont plus importants, plus sacrés. Mais en fin de compte, on fait tous partie du même peuple. Veiba et Emma, et si tu veux une autre réponse? Pourquoi notre Mishnah n'a pas parlé du vœu estimatif sur un non-juif? Aïdé de Kabaël le mitne sefas de Ahouza. Puisque par la suite, dans la Mishnah suivante, la Mishnah doit parler du champ patrimonial, de Be Israël ou de Mishkachatla, Bovet Kuchavim lo Mishkachatla. Comme quoi ceci est possible uniquement avec le peuple juif et non pas avec un non-juif? De Lav Bne Ahouza Ninu. Étant donné que ceux-là ne sont pas inclus dans les lois du champ patrimonial, si c'est un non-juif qui a consacré au temple un champ patrimonial, il ne va pas le racheter, comme on va le voir par la suite dans la Mishnah. Il va le racheter suivant sa valeur. Mishum achik tanila beYisrael. C'est pour cela que même la première Mishnah, où en vérité il était possible de parler du non-juif, tout de même, la Mishnah préférait parler du Israël. On commence la Mishnah suivante. Besdeh chouza, leakel ulach mir ketzad. À propos du champ patrimonial, des fois le paiement est plus facile et des fois plus difficile. Comment cela? Echad amakdish becholat amachoz, veechad amakdish befardisaot sabesti, soit celui qui a consacré un de ses champs patrimoniaux qui se trouve dans les terrains de Machoz. Rashi ramène plusieurs explications. En tous les cas, tous reviennent au même, qu'il s'agit d'un endroit où tous les champs ont peu de valeur. Et soit s'il a consacré un de ses champs patrimoniaux qui se trouve parmi les plantations de sabesti, un endroit où les champs ont beaucoup de valeur. Noten zera chomer seorim b'chamishim shekel kasef. Sur chaque terrain qui pourra contenir de quoi planter la mesure de un chomer de graines d'orge sera racheté à 50 shekels d'argent. Étant donné que celui qui va le racheter gardera ce champ jusqu'à l'année jubilée, donc il ne l'a pas racheté pour l'éternité, alors on lui dit, s'il l'a racheté pour 50 ans, il l'a racheté la première année après l'année jubilée. Dans ce cas-là, il va payer pour chaque terrain qui a cette grandeur la valeur de 50 shekels d'argent. Donc s'il l'a racheté 25 ans avant l'année jubilée, il va en donner que 25. En tous les cas, la Mishnah nous dit, soit si le champ vaut plus ou bien s'il vaut moins, tel est son prix fixe. Par contre, si ce n'est pas un champ patrimonial qui a été consacré, mais simplement une personne qui a acheté un champ l'a ensuite consacré, dans ce cas-là, pour le racheter, il va falloir payer sa valeur. Rabbi Eliezer Omer, Echat de Mikne, Vechat de Achouza. D'après Rabbi Eliezer, soit si le champ qui a été consacré est un champ qui a été acheté, soit s'il est un champ patrimonial, le prix de 50 shekels d'argent est fixe. Ma ben Tzde Achouza le Tzde Mikne. Et quelle différence y a-t-il entre le champ patrimonial et celui qui a été acheté? Chez Tzde Achouza ou Noten Chomesh, ou Tzde Mikne, et non Noten Chomesh. À propos du champ patrimonial, si celui-ci a été racheté par son propriétaire initial, en plus des 50 shekels, il va devoir donner un cinquième. Par contre, à propos du champ acheté, même s'il a été racheté par le propriétaire, par l'acheteur, Tout de même, il ne va pas rajouter un cinquième. On commence la Gemara. Amaravuna, Hikdish Sade Mlea Ilanot, s'il a consacré un champ rempli d'arbres, Kshehu Podé, pour le racheter, Podé Ilanot Beshovian, Bechozer ou Podé Karka, Bet Zerachomer Sorim Bechamishim Shekel Kesef. D'abord, il va devoir racheter les arbres suivant leur valeur, et ensuite il va racheter le champ au prix fixé, que sur chaque grandeur de champ où on pourra semer la mesure de un chomer en graines d'orge, au prix de 50 shekels d'argent. Alma Kasava Ravuna, Adam Magdish Ba'inyafa Magdish. De là, on pourra déduire que Ravuna est d'avis que celui qui consacre quoi que ce soit au temple, il le fait de bon cœur, avec générosité. Et ce n'est pas que les arbres dépendent du champ, et du moment où le champ a été racheté, les arbres viennent avec. Plutôt, on va dire qu'il a consacré chacun à part. Et donc, bien qu'on a racheté le champ, il faudra tout de même racheter les arbres. Et Tivé Rav Nachman Ravuna a demandé Rav Nachman Ravuna, Echad Amagdish Bechonat Amachoz, Echad Amagdish Bifardisot Sabesti. On a vu dans notre Mishnah, soit celui qui a consacré un des mauvais champs du Machoz, ou bien un des bons champs des plantations de Sabesti, Noten Betzera Chomer Seorim Bechamishim Shekel Kesef. Il va le racheter au prix fixe de 50 shekels d'argent, par terrain qui contient la mesure de un chomer en graines d'orge. Et bien que le champ se trouve dans les plantations de Sabesti, donc il est planté, il a des arbres, tout de même il ne va pas donner plus. Amarle, Rouyol Pardisot Kamina. Lui a répondu Ravuna, quand la Mishnah a dit Magdish Bepardisot Sabesti, un champ qui se trouve parmi les plantations de Sabesti, cela s'entend, un champ où on pourra planter les plantations de Sabesti. En revanche, lui-même n'est pas encore planté. Et Tivé, alors on a demandé une autre question. Bet Zera, l'estimation sera faite d'après la contenance en graines. Enli et la Bet Zera, ceci inclut un champ qu'on pourra semer. Sadek Fanim, Vesadek Kanim, Vesadek Ilanot Minaïn. Un champ où il y a des vignes, ou bien celui qui a des roseaux, ou bien celui qui a des arbres. Donc un champ où on ne pourra pas semer les graines. D'où est-ce qu'on va l'inclure? Talmud Lomar Sade Mikol Makom. C'est pour cela que le verset a rajouté Sade, n'importe quel champ suit le même taux. Donc on voit que même le champ où il y a les arbres, tout de même, son taux reste le même. Amarle, lui a répondu Ravuna, Achinami, Podé, Vechozer ou Podé. Là aussi qu'on a inclus ce champ-là, cela s'entend le champ même. Par contre, il faudra tout d'abord racheter les arbres à part. Et Tivé, alors on a posé une autre question. Hikdish Shlosha Ilanot Mimata Asara Lebetsea, celui qui a consacré trois arbres. Comme quoi ces trois arbres sont espacés l'un de l'autre d'une distance suffisante que s'il y en avait 10, ces 10-là auraient pris la grandeur d'un champ, de la contenance, de la mesure d'une CA en graines. Cela veut dire qu'ils ne sont ni trop espacés et ni trop serrés. Ils sont plantés comme il le faut. Alors, Hareze Ignish Etakarka, Veta Inanot Shebenem. La consécration des trois arbres inclut le champ qui est entre eux et aussi les petites pousses qui se trouvent entre eux. Alors, Ksheu Podé, Podé Bet Zerachomer Seorim, Bechamishim Shekel Kesef. Quand il va racheter, ce sera en suivant le taux de 50 shekels d'argent pour chaque contenance de un chomer en graines. Pachot mikan, o yeter alkan, o shekdishan bezeh acharze. Mais si les trois arbres étaient trop serrés, comme quoi s'il y en avait 10, ils n'auraient pas pris la place de la contenance de une CA, ou bien yeter alken, ils sont trop espacés et ils auraient pris plus de place, ou bien il a consacré les trois arbres un après l'autre et non pas en même temps. Arezelo yekdish, lo et akarka, il a consacré uniquement les arbres, et non pas le champ, ni les pousses qui se trouvent entre. Donc, puisqu'il a consacré uniquement les arbres, évidemment que pour les racheter, il va payer leur valeur réelle. Et ce n'est pas uniquement dans le cas où le champ n'est pas consacré, qu'il va falloir les racheter à leur prix réel. Velorod, non seulement ce cas-là, et la filou igdish ilanotav, vachakar igdish karka, même s'il a en premier lieu consacré les arbres. Mais ceci n'a pas inclus le champ, étant donné que ces arbres étaient trop serrés ou trop espacés, et ensuite il a lui-même consacré le champ. Kshu podé podé etaydanot bechovien, kshu podé podé etaydanot bechovien, vechozer ou podé karka betzera chomer sorim bechamishim shekel kasef. Quand il voudra racheter son bien, il va tout d'abord racheter les arbres, et ensuite il va racheter le champ au taux de 50 shekels d'argent pour chaque parcelle qui a la contenance de un chomer en graines d'orge. Donc on voit de cette braïta que dans le cas où les arbres étaient bien plantés, du moment où ils rachètent le champ, ceci inclut les arbres. Pas la peine de les racheter. Et ceci contredit ce que nous a dit Ravuna. V'chitema hachanami, podé v'chozer ou podé. Et si là aussi tu vas me répondre que la braïta qui a dit qu'il va racheter au taux de 50 shekels, ceci a été dit uniquement à propos du champ. Cependant, il devra tout d'abord racheter les arbres. Hami de sefa podé v'chozer ou podé, michlal de recha lo. Puisque à la fin de la braïta, dans le cas où les arbres étaient mal disposés et qu'il a dû consacrer les arbres à part et le champ à part, dans ce cas-là précise la braïta, il va devoir racheter les arbres à part et le champ à part. De là, on pourrait déduire que dans la Recha, au début de la Braïta, où les arbres étaient bien disposés, et que du moment où il a consacré les arbres, le champ est consacré avec, puisque la Braïta n'a pas précisé qu'il va devoir racheter chacun à part, de là, on pourra conclure que du moment où il a racheté le champ, ceci inclut les arbres. Répond la Gemara, et la Hamani Rabbi Shimoni de Amar Magdish, Ba'inra Magdish. Ce que Ravuna a dit, a été dit d'après l'opinion que Magdish Ba'in Yafa Magdish, celui qui consacre le fait avec générosité. Par contre, l'auteur de cette braïta est Rabbi Shimon. Comme quoi, d'après lui, Magdish be'ayin ra Magdish, celui qui consacre le fait avec avarice. Et donc, il n'a pas consacré chacun à part, mais plutôt les deux ensemble. Et en effet, d'après lui, du moment où le champ a été racheté, les arbres redeviennent automatiquement profanes. De Tania, comme on l'a vu dans la braïta, ha Magdish et asadeh, higdish et kula, celui qui a consacré un champ, a consacré avec tout ce qui s'y trouve. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui nous dit, Loïkdish Ela Kharuva Mukav, Besedena Shikma. Il n'a rien à consacrer avec, sauf le caroubier greffé et le tronc du sycomore. Comme quoi ces deux arbres sont très grands et leurs racines portent très loin et ils dépendent tellement du champ qu'ils y font partie intégrale. Donc c'est uniquement ces deux-là qui sont inclus dans la consécration du champ. Par contre, les autres plantes ne sont pas incluses. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon, celui qui consacre le fait avec avarice. Demande la Gemara, « Rabbi Shimon, si on va dire que la braïta précédente a été dite d'après Rabbi Shimon, et Masefa, voyons voir la fin de la braïta, velood, et en plus, elle a filo ikdish ilanotav, vachakar ikdish karka, même s'il a d'abord consacré les arbres, qui étaient mal plantés, et ensuite il a consacré le champ, kshu podé, podé teilanot bechovien, vechoser upodé betzerachomé asorim, bechamishim shekel kasef. Quand il va racheter les arbres suivant leur valeur réelle, et ensuite il va racheter le terrain suivant le taux de 50 shekels par parcelle qui a la contenance d'un chomer en graines d'orge. Veuillez Rabbi Shimon, et si on va dire que l'auteur de la braïta est Rabbi Shimon, les îles Batarpidion, Velifreku Agav Arayu, on n'a qu'à regarder comment se trouve la chose qui est rachetée au moment où elle est rachetée, et puisqu'au moment où on rachète, les arbres ne sont pas seuls, il y a les arbres de consacrer avec le terrain, de même qu'on a dit que d'après Rabbi Shimon, si dès le début, le champ a été consacré avec les arbres, il suffit de racheter le champ, les arbres viennent avec, alors même dans le cas où le champ a été consacré après les arbres, étant donné qu'au moment où on va racheter, on a les deux, les arbres et le champ, velifreku agavayarayu, il aurait suffi de racheter le champ, et les arbres sont rachetés automatiquement avec, de Hachaminanle, le Rabbi Shimon, de Azil Batar Pidion. Car on a vu que d'après Rabbi Shimon, tout dépend du moment où on procède au rachat. De Tania, comme on l'a vu dans la Braïta, Minayin lokeach sademe aviv, veikdisha, vachakach met aviv. D'où est-ce qu'on sait que celui qui a acheté un champ de son père, et ensuite il l'a consacré, et ensuite son père est mort. Donc si on regarde au moment de la consécration, ce qui a été consacré par le fils se trouve être un sadé mikne, et non pas un sadé achouza, un champ que le fils a acheté, et non pas un champ patrimonial. Mais si on regarde le moment où il va le racheter, après que son père est mort, et donc il a hérité son père, ce champ devient pour lui champ patrimonial. Alors Minaïn c'était le fanaf que c'était Arouza. D'où est-ce qu'on sait que celui-ci va être considéré comme champ patrimonial? Talmud Lomar, c'est pour cela que dit le verset, Im et de miknato, asher lomis de Arouzato. Quand est-ce qu'on va racheter le champ suivant sa valeur réelle, et non pas suivant le taux des 50 shekels? Uniquement dans le cas de Im etz de miknato, s'il s'agit d'un champ qu'il a acheté, et le verset précise, Asher lo misde achuzato, un champ qui n'est pas champ patrimonial. Cette phrase est en trop, de là on va apprendre, Sade she enar uyal yotz de achuza. On va racheter le champ à sa valeur, uniquement dans le cas où il s'agit d'un champ qui ne pourra pas devenir champ patrimonial. Yotz tazu she uyal yotz de achuza. Ce cas a été exclu, étant donné que le champ qui a été consacré, puisqu'il a été acheté au père de celui qui l'a consacré, donc ceci pouvait devenir pour lui champ patrimonial, celui-ci a été exclu de Sadeh Mikne, du champ qui a été acheté. Divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon, telle est l'opinion de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir lui nous dit, Minayin lokeach sade me'aviv ou metaviv v'achakach ikdisha. D'où est-ce qu'on sait que celui qui a acheté un champ de son père et ensuite son père est mort et donc il l'a hérité et ensuite après l'avoir hérité il l'a consacré. Minayin c'était le fanav kesde achuza. D'où est-ce qu'on sait qu'elle est considérée pour lui comme champ patrimonial et non pas comme champ qu'il a acheté, même qu'au début il l'a acheté.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tourne la page, on est Yudalod Amudbet. Talmud Lomar, c'est pour cela que dit le verset. Im et de miknato asher lo misdeh chuzato. Et s'il a consacré un champ qu'il a acheté et qui n'est pas un champ patrimonial, pourquoi le verset a précisé asher lo misdeh chuzato? Sade sheinas deh chuza. Yatztazu sheis deh chuza. Il s'agit uniquement d'un champ qui est acheté et qui n'est pas champ patrimonial. Par contre, celui qui est devenu champ patrimonial, celui-ci n'est pas considéré comme sadeh mikné, il ne sera pas racheté suivant sa valeur, mais comme est racheté un champ patrimonial, à 50 shekels d'argent, chaque passerelle. On se trouve donc dans la Maseret Erchin, au début du Daf Yudalod Amudbet, comme quoi la Gemara essaye de prouver que d'après Rabbi Shimon, tout dépend du moment où on procède au rachat. Et donc même si à la consécration a été consacrée à part les arbres et ensuite le champ, puisque au moment du rachat, il y a les deux à racheter, il suffit de racheter le champ pour que les arbres soient rachetés. Alors pour prouver cela, on a rapporté la Braïta, où on a vu une divergence entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, comment commenter le verset qui parle du sade mikné, de celui qui a consacré un champ qu'il a acheté, comme quoi le verset avait rajouté et précisé « Asher lo misdeh chuzato », un champ qu'il a acheté, et donc qui n'est pas champ patrimonial. D'après Rabbi Shimon, ceci vient exclure le cas où le fils a d'abord consacré le champ qu'il a acheté de son père et ensuite il l'a hérité, son père est mort. Même dans ce cas, où quand il a été consacré, il était sade mikné, vis-à-vis du fils, ceci n'était pas un champ patrimonial, ceci était un champ qu'il a acheté, tout de même il devient un champ patrimonial. Et d'après Rabbi Meir, cela vient exclure le cas où il a acheté le champ de son père, ensuite il l'a hérité et ce n'est que après cela qu'il l'a consacré. Dans ce cas-là, bien qu'il y avait un moment où ce champ était pour le fils sade mikné, un champ qu'il a acheté, tout de même, étant donné que quand il l'a consacré, son père était déjà mort, donc il l'avait déjà hérité, ceci sera considéré sade achuza, champ patrimonial. Alors, à la Gemara de conclure. Veilu le Rabbi Yehuda ou le Rabbi Shimon, afilu ikdisha, b'hakach met av, sade achuza avia. En revanche, d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, même s'il l'a d'abord consacré, et ce n'est que ensuite qu'il l'a hérité de son père, ceci est tout de même considéré comme champ patrimonial. Maitama, d'où est-ce qu'ils apprennent cela? Imishunkra, Kra l'ichdrav meir ou d'ata. S'ils l'apprennent uniquement du verset, comment est-ce qu'ils prouvent cela? Peut-être que le verset viendra uniquement exclure le cas de Rabbi Meir, où le fils a hérité son père avant la consécration. Et la lave, mishum de azil batapidion. Donc n'est-ce pas qu'en vérité, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ne l'apprennent pas du verset? Simplement, ils sont d'avis en règle générale que tout dépend du moment où on procède au rachat. Et donc, puisqu'à ce moment, le père était déjà mort, c'est pour cela que ce champ est considéré comme champ patrimonial pour le fils. Donc, pour vous rappeler notre sujet, ceci est une question. Je résume rapidement. On avait dit de près Ravuna que celui qui a consacré un champ planté d'arbres, il l'a fait be'ayin yafa, avec générosité, et par conséquent, il faudra racheter les deux à part. Et la Gemara avait rapporté une braïta qui contredit cela. D'après la braïta, du moment où il rachète le champ, automatiquement, sans les racheter, les arbres font partie du champ et deviennent profanes. La Gemara avait répondu à cela, qu'en effet, cette braïta ne partage pas l'avis de Ravuna. Ravuna a dit ce qu'il a dit, d'après l'auteur qui pense que Be'ayin Yafa Magdish, celui qui consacre, le fait avec générosité. Par contre, Rabbi Shimon pense que Magdish Be'ayin Ra'a Magdish, celui qui consacre, le fait avec avarice. Et sur cela, la Gemara avait demandé, comment peut-on dire que l'auteur de la deuxième braïta est Rabbi Shimon? D'après lui, même s'il a consacré d'abord les arbres et ensuite le champ, pourquoi dans ce cas-là, on dit la braïta qu'il faudra racheter les deux à part? D'après Rabbi Shimon, on vient de prouver que Olchim Batar Sha'at Pidyon, tout dépend du moment du rachat. À ce moment-là, les deux, le champ et les arbres, sont consacrés. Et donc, en suivant ce raisonnement, du moment où on rachète le champ, les arbres deviennent profanes. Pourquoi les racheter? Donc forcément, la braïta n'est pas dit d'après Rabbi Shimon. Et cela redevient une question contre Ravuna. Sur cela, répond maintenant la Gemara. Même d'après Rabbi Shimon, on ne va pas dire comme on a supposé que tout dépend du moment du rachat. D'après lui aussi, si au moment de la consécration, il y avait les arbres qui ont été consacrés à part et ensuite le champ, il faudra racheter chacun à part. Et la braïta a oui été dite d'après Rabbi Shimon. Alors pourquoi dans notre braïta à présent, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon disent que même dans le cas où le fils a d'abord consacré et ensuite hérité, tout de même, ceci est considéré comme champ patrimonial. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, nous dira Nachman Bar Yitzhak, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, kra ashkechu vedarush. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont appris ce qu'ils ont dit en commentant le verset suivant. Si on va dire que le verset venait uniquement nous apprendre le commentaire de Rabbi Meir, imken, dans ce cas-là, l'irto rachmana, imetz demiknato, asher lo achuzato. Si ce qui était consacré est un champ qu'il a acheté et qui n'est pas patrimonial, pourquoi le verset rajoute mai misde, et ceci n'est pas d'un champ patrimonial? De là on va commenter, sade she'ena reuya liot de achuza. La façon dont on rachète le champ acheté est dit uniquement sur un champ qui ne pourra pas devenir patrimonial. Mais celui qui pourra le devenir, bien que pour l'instant il ne l'est pas, tout de même il est exclu et considéré comme champ patrimonial. Amarat papa, nous dira papa, higdish trashin podan beshovian, celui qui a consacré un terrain rocailleux patrimonial, il va le racheter suivant sa valeur. Maïtama, pour quelle raison? Bet zera amarachmana. La Torah a dit qu'on va le racheter suivant le taux de 50 shekels, uniquement s'il est bet zera. Si on pourra y semer la mesure de un chomer en graines d'orge. Par contre, s'il est rocailleux, on pourra rien semer dedans. Vehani lav nezrianinu. Ce champ-là ne pourra pas être semé. Avant de continuer, il faudra savoir qu'il y a une autre différence entre le sade mikne et le sade achuza. Le champ acheté et le champ patrimonial. Celui qui a consacré un champ acheté et lui-même ne l'a pas racheté, il a été racheté par quelqu'un d'autre. L'année jubilée, ce champ va retourner, c'est son propriétaire initial. Je m'explique. Il appartenait à Reuven. Reuven l'a vendu à Shimon. Shimon l'a consacré et c'est Lévi qui l'a racheté. L'année jubilée, ce champ va retourner de Lévi à Reuven. Par contre, si c'est un champ patrimonial et son propriétaire ne l'a pas racheté, il a été racheté par une tierce personne, l'année jubilée, ce champ ne retourne pas à son propriétaire initial, il sera partagé parmi les Kohanim. Donc, Rafapa termine en disant, Loge Alam, si celui qui a consacré le terrain rocailleux patrimonial ne l'a pas racheté, Yotzim la Kohanim Bayovel. On va procéder avec ce champ comme avec un champ patrimonial. Et donc, à partir de l'année jubilée, il va appartenir au Kohanim. On ne va pas dire comme à propos du champ acheté que celui-ci retourne chez son propriétaire initial l'année jubilée. Pourquoi cela? Maïtama, Sade Amarachmana, Koldou. À propos du champ qui va appartenir dorénavant au Kohanim, le verset n'a pas précisé Betzera. Le verset a simplement employé le terme Sade, un champ patrimonial. Ce champ rocailleux est considéré comme champ patrimonial, et donc il fait partie de la même règle. Avant de continuer, on va apprendre encore une loi. Celui qui vend un champ à son camarade, on apprend du verset qu'il pourra le racheter, même si l'acheteur n'est pas d'accord. Cependant, pas tout de suite, uniquement au bout de 2 ans. Alors, on dira papa, Machar Trashim Nigalim Pachot Mishteshanim. S'il a vendu un champ rocheux, il pourra le récupérer même avant les 2 ans. Maïtama, d'où est-ce qu'on apprend cela? Le verset a dit, Mispar Shnetvuot Amarachmana. La Torah a dit, il faudra laisser le champ chez l'acheteur, de quoi le récolter 2 ans. Donc ceci a été dit uniquement à propos d'un champ qui produit des récoltes. Vani lav nezrianinu. Par contre, ce terrain rocheux, on ne pourra pas le semer et il ne produit pas de récolte. Loge alam, si tout de même le propriétaire n'a pas racheté son champ, tout de même roseret la be'alim bayovel. L'année jubilée, ce terrain rocailleux retournera chez son propriétaire initial. Maïtama, d'où est-ce qu'on apprend? Veshav l'achuzato amarachmana, vainami achuzai. Le verset a dit que tout terrain patrimonial qui a été vendu retournera son propriétaire l'année jubilée. Celui-ci est inclus dans la définition de achuzato, patrimoine. Voici les règles à propos d'un champ rocailleux. À présent, à propos des arbres. Ikdish ilanot, celui qui a consacré des arbres, podé beshovien. Il va les racheter suivant leur valeur, et non pas suivant le taux de 50 shekels. Maïtama, pour quelle raison? Betzera marachmana, velo ilanot. La Torah a précisé que le taux de 50 shekels est dit à propos d'un endroit où on pourra semer, et non pas à propos des arbres. Loge alan, le propriétaire n'a pas racheté les arbres. En yotzim la kohanim bayovel. L'année jubilée, ils n'iront pas chez les Kohanim. Pourquoi cela? Ve'aya asade amarachmana, velo ilanot. La Torah a dit que c'est le champ qui ira chez les Kohanim, et non pas les arbres. Machar ilanot, celui qui a vendu des arbres, en nigalim pachot mishteishanim. Il ne pourra pas les racheter de l'acheteur avant les 2 ans. Maïtama, pour quelle raison? Shnetvot amarachmana, vanib netvot ninu. La Torah a dit qu'il faudra laisser chez l'acheteur de quoi récolter 2 ans. Les arbres produisent et pourront être récoltés. Loge alan, en chozrot la be'alim bayovel. Si le vendeur n'a pas racheté ses arbres, ils ne retourneront pas chez le vendeur l'année jubilée. Maïtama, pour quelle raison? Veshav l'orzato amarachmana, velo ilanot. Le verset a dit que le champ retournera chez son propriétaire. Ceci est dit à propos d'un champ et non pas à propos d'un arbre. Amarmar, nous dit Mar, higdish ilanot podé beshovian, s'il a consacré des arbres, il va les racheter suivant leur valeur. Amai, pourquoi cela? Velik de chou agav arayou, velifrequa agav arayou. Du moment où ils ont été consacrés, cela inclut la terre où ils sont plantés. Et donc, du moment où on rachète la terre, automatiquement ils sont rachetés avec. Vechitema ilanot agdish, ara lo agdish. Et si tu vas me répondre, c'est uniquement les arbres qui sont consacrés et non pas la terre, tu ne pourras pas le dire ainsi. Vamre nardae, nardae nous disait, mande masbinle, dikla le chavre. Celui qui vend un palmier à son camarade, kanile mishipula vad toma. L'acheteur a acheté avec la terre depuis la base de l'arbre jusqu'à l'abîme, toute la terre qui est sous l'arbre. Donc pareil à propos de la consécration, la terre qui est sous l'arbre a été aussi consacrée. Et pour la Gemara, non, ceci est faux. Lav mit marala, et ce qu'on a oublié que sur les propos de Nardae a été précisé la chose suivante, bevam mahmat ta'ana. En règle générale, on va dire que celui qui a vendu des arbres n'a pas vendu avec la terre. Et les propos de Nardae sont dits sur un cas précis. Ils sont dits sur le cas où au moment de la vente, l'acheteur a précisé qu'il achète l'arbre avec la terre. Dans ce cas-là, nous disent Nardae qu'il a acheté la terre depuis la base de l'arbre jusqu'à l'abîme. Mais dans un cas normal, où la terre n'a pas été mentionnée, elle n'est pas inclue dans la vente. Pareil à propos de la consécration, elle n'est pas inclue dans la consécration. On a vu dans la Mishnah, « Sademikne noten et shovio » Si ce qui a été consacré est un champ qui a été acheté, il sera racheté suivant sa valeur. Tanur Rabbanan, on a appris dans la Braïta. Bemirsat, ma balilmod. Je lis le verset qui nous concerne et qui a été écrit à propos de la consécration d'un sade mikne, d'un champ qui a été acheté. Vechishav lo haKohen et mirsat erkecha. Et le Kohen va évaluer la portion du taux à payer. Pourquoi le verset a rajouté le mot mirsa, portion? Le fiche Nehemar zera chomer seorim. Bechamishim shekel kesef, étant donné qu'il est écrit à propos du champ patrimonial, qu'on va le racheter suivant le taux de 50 shekels d'argent pour chaque terrain qui a la contenance de quoi semer la mesure de un chomer en graines d'orge, yachol afsademik neken, peut-être que le champ qui a été acheté et ensuite consacré sera racheté de la même façon. Talmud lomar mirsat, c'est pour cela que le verset a précisé le mot mirsat. On va évaluer sa valeur d'après sa portion, donc d'après sa valeur réelle. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui nous dit, Ne'emar kan v'chishav, v'ne'emar lalan v'chishav. À propos du sade mikne, le verset a employé le terme v'chishav, et le Kohen va évaluer. De même, à propos du sade achouza, le verset a employé le même terme v'chishav, donc on va faire la comparaison. Ma lalan davar katsuv, afkan davar katsuv. De même qu'à propos du champ patrimonial, le taux est fixe. Pareil, à propos du champ acheté, le taux est fixe. Ibayalou. On s'est posé la question suivante. Rabbanan itlo gzerashava ou mafkine le chomesh. Rabbanan accepte le commentaire de la gzerashava, de la comparaison par les mots identiques entre le sade mikne et le sade achouza. Et donc, à propos de ce qui est possible de les comparer, on va faire la comparaison. À propos du taux fixe, ceci n'est pas possible. Puisque à propos du sade mikne, du champ acheté, le verset a précisé bemirsat, suivant sa valeur réelle. Mais à propos d'autre chose, la comparaison est possible. Et donc, on va le commenter. De même qu'à propos du sade achouza, du champ patrimonial, si c'est le propriétaire qui le rachète, à part le taux de 50 shekels, il va rajouter un cinquième. Pareil à propos du champ acheté, si c'est le propriétaire qui le rachète, il va rajouter un cinquième de sa valeur. Odilma, ou bien on va dire, let lo gzerashava, ve let lo lechomesh. Rabbanan refuse ce commentaire, et d'après eux, il n'y a aucune comparaison entre le champ acheté et le champ patrimonial, et par conséquent, à propos du champ acheté, même s'il a été racheté par le propriétaire, il n'a pas rajouté le cinquième. Amarava répond à cela Rava, Mistabra let lo gzerashava. Logiquement, on pourra déduire que Rabbanan refuse la comparaison. Pourquoi cela? Mi de galirachmana chomesh gabes de achouza, ve gabe magdish et beto, havele shnektevin abayim keechad, ve chol shnektevin abayim keechad, en melamdim. On va d'abord expliquer la règle de shnektevin abayim keechad. S'il y a un verset qui nous apprend une chose quelconque, et en suivant une règle quelconque, on pourra appliquer ce que nous a appris le verset ailleurs, sur d'autres cas. On va le faire à condition que le verset ne l'a pas précisé une fois ailleurs. Mais si le verset l'a précisé ailleurs, Donc il y a Shnei Ktuvim, deux versets, Habaim Kehad, qui nous apprennent la même chose. On ne pourra pas appliquer ce qui a été appris dans ces versets ailleurs. Étant donné que si en effet la Torah voulait qu'on l'applique ailleurs, pourquoi la Torah l'a mentionné deux fois? Une fois aurait suffi, et on l'aurait appliqué ailleurs. Donc puisque la Torah l'a mentionné deux fois, cela vient nous faire comprendre qu'on va l'appliquer uniquement dans les endroits où ça a été précisé et non pas ailleurs. Donc, nous dit Rava, puisque le Chomesh, le fait que si c'est le propriétaire qui rachète, il va devoir rajouter un cinquième. Ceci a été mentionné dans deux versets. Alors, à présent, je relis la Gemara. Mi de Galirachmana Chomesh, puisque la Torah a mentionné le cinquième, Gabes de Achuza, à propos du champ patrimonial, de Gabé Makdish Beto, et à propos de celui qui consacre sa maison, Havele, Shtekhtuvim Abayim Kehad. On va appliquer la règle des deux versets qui mentionnent la même chose, V'chol Shnei Ktuvim Abayim Kehad En Melamdim. Comme quoi, chaque fois que deux versets apprennent la même chose, on ne va pas l'apprendre ailleurs. Donc on ne pourra pas appliquer le cinquième à propos du champ acheté. Ou le man de Amar Melamdim, et même d'après celui qui est d'avis, que s'il y a uniquement deux versets qui se répètent, qui mentionnent la même chose, on pourra oui l'appliquer ailleurs, étant donné que d'après tout le monde, s'il y en a plus que deux, on ne pourra pas l'appliquer et l'apprendre ailleurs, aux endroits où ceci n'a pas été mentionné. Alors, mi de Galirachmana Chomesh de Maaser, puisque la Torah a mentionné le cinquième, aussi à propos du prélèvement, Bibé Mateora, Bibé Matemea, et aussi à propos de la consécration d'une bête pure, consommable, ou bien d'une bête impure, non consommable, Havele Utuva Ven Melamdim. Donc il y a beaucoup plus que deux versets, il y en a cinq, le champ patrimonial, la maison, le prélèvement, la bête pure et celle qui est impure, Ven Melamdim. Et donc on ne pourra pas les apprendre ailleurs. Tania Kamata de Rava, Velomitame. On a vu dans la Breita, comme nous le dit Rava, que le propriétaire ne va pas rajouter un cinquième s'il rachète le champ acheté, mais pas pour la même raison. De Tania, comme on a vu dans la Breita, c'est écrit à propos du champ acheté, Bemirsat Ha'erkecha, pourquoi le verset a employé le terme Erkecha, Hikishoa Katov Le'erin, pour faire le commentaire de la comparaison entre le champ acheté et le vœu estimatif. Ma'erin en Mosif Chomesh, Afsdemikne en Mosif Chomesh. De même qu'à propos du vœu estimatif, on ne rajoute pas un cinquième. Pareil, à propos du champ acheté, on ne rajoute pas un cinquième. On commence la Mishnah suivante. On avait vu au début du chapitre, Beshor Amoued, Shemit Yataeved, Le Hakel ou Le Achmir, Ketsad. À propos du taureau Mouad, de celui qui est averti, il a déjà encorné trois fois, et donc le propriétaire est averti et il aurait dû bien le garder. Si tout de même celui-ci a tué un esclave, des fois le paiement est plus facile, et des fois il est plus difficile. La Mishnah va expliquer ici comment cela. Echad sheimit et anna'e sheba'avadim, vetakkaur sheba'avadim, noten shloshim sela. Soit s'il a tué un esclave de premier choix, un bel esclave, le plus beau qui existe, ou bien au contraire, le plus laid qui existe, la somme à payer est toujours fixe. 30 sela. Donc à propos d'un esclave cher, le paiement est facile, il est moins que sa valeur, et à propos d'un esclave pas cher, il est difficile, il est plus que sa vraie valeur. Himit ben chorim, noten shovio. Mais si le taureau a tué une personne libre, il va payer sa vraie valeur. Chaval beze ou baze, noten nezek shalem. Et s'il n'a pas tué, il a endommagé soit un esclave, soit un homme libre, il va rembourser les dommages dans leur intégralité. L'Agmara déduit de la Mishnah. Puisque la Mishnah a mentionné Beshor Amouad, alors dit l'Agmara, Bemouad in betamlo. Quand est-ce que la Mishnah a dit que le taureau qui a endommagé, encorné, sans tuer une personne quelconque, il va payer intégralement les dommages, uniquement si le taureau est mouad, il est averti. Par contre, s'il est tam, il est inoffensif, c'est la première fois qu'il encorne, le propriétaire va payer que la moitié des dommages. Petite précision, d'après tout le monde, si le taureau inoffensif a endommagé un bien quelconque, et non pas une personne, le propriétaire va payer uniquement la moitié du dommage. Par contre, s'il a encorné et blessé une personne, sur cela, il y a une divergence. D'après Rabbanan, là aussi, il va payer uniquement la moitié. Mais d'après Rabbi Akiva, si le dommage est sur une personne, même si le taureau est inoffensif, il faudra payer intégralement. Donc dit la Gemara, les mamatitim de l'oké Rabbi Akiva, peut-être que notre Mishnah ne partage pas la vue de Rabbi Akiva, de Tnan, comme on a vu dans la Mishnah, Rabbi Akiva Omer, on dit Rabbi Akiva, Aftam shechaval ba'adam, meshalem bemotar nezek shalem, même si c'est un taureau inoffensif qui a endommagé une personne, il va falloir payer intégralement. Je vais à présent expliquer le mot motar, qui sera traduit surplus. Il s'agit du cas où l'homme et la bête se sont disputés, se sont dommagés l'un l'autre. Disons que l'homme a été endommagé 100 francs et le taureau 50 francs. nous dit Rabbi Akiva, le propriétaire du taureau va payer à l'autre 50 francs. Puisque l'autre lui doit 50 francs qu'il a lui-même endommagé au taureau, donc le propriétaire du taureau va l'indemniser que le surplus. En tous les cas, on voit que d'après Rabbi Akiva, même si c'est un taureau inoffensif qui a causé un dommage quelconque sur une personne, il va falloir payer intégralement et non pas comme on a déduit de la Mishnah. Et pour la Gemara, « Afilut et Rabbi Akiva », même si on va dire que notre Mishnah est d'accord avec Rabbi Akiva, « Ou adin d'afilut tamnami », c'est vrai que la loi est valable même à propos d'un taureau inoffensif. Alors pourquoi la Mishnah précisait au début « Beshor amouad », un taureau averti, étant donné que après ces mots-là, donc « Ve'aide de kabel le mit nesefa » Hemit Eved, Hemit Ben Chorim, au début de la Mishnah, après les mots de Shor Amouad, taureau averti, la Mishnah a parlé des cas où il a tué un esclave ou bien une personne libre, de Bemouad ou de Mishkachatla, Betam le Mishkachatla, comme quoi ceci est possible uniquement à propos d'un taureau averti, et non pas à propos d'un taureau inoffensif. Mishumachik Tani Mouad. C'est pour cela que la Mishnah, dans tous les cas où elle parlait du taureau, la Mishnah a parlé du taureau averti. Mais en effet, la fin de la Mishnah, où on parle du taureau qui a endommagé une personne, ceci est dit aussi à propos d'un taureau inoffensif. On commence la Mishnah suivante. On avait dit au début, Beones ou Bimfate, le Hakel ou le Achmir. À propos du violeur ou du séducteur, des fois le paiement est plus facile et des fois plus difficile. Ketzad, comment cela? Echad che anasupita, etak de la shebakouna, vetak dan shebe Israël, noten chamishim slaim. Celui qui a violé, ou bien il a séduit, une fille d'une famille importante, de la famille la plus importante, de la tribu la plus importante, de la tribu des Kohanim, ou bien au contraire, d'une famille médiocre, de la tribu d'Israël, le paiement est le même. Il va payer 50 sela. Donc à propos de la fille importante, il a payé moins, et à propos de celle qui ne l'est pas, il a payé plus. Cependant, il n'y a pas que ce paiement, notamment en plus de ce paiement, il va payer le bochet et le pgam, le dommage moral et le dommage de dégradation, du fait qu'elle vaut moins sur le plan sexuel. Donc, ou de la Mishnah, Vabochet Vabgam, Hakol le Fiame Vayesh, Vamit Bayesh. Ces deux paiements ne sont pas fixes, tout dépend de l'homme et de la femme. De l'homme qui lui a causé cette honte, et de son rang à elle, plus qu'elle est importante, plus que la honte est grande. On commence la Gemara. Demande la Gemara, Amay, Ema Chamishim Slaim, Amarachmana Mikol Mile. Pourquoi tu dis que à part les 50 shekels, il va devoir payer le dommage moral et celui de la dégradation? Peut-être que les 50 c'est là, de la Torah, inclut tout le paiement. Amar Rav Zohira répond sur cela. Rav Zohira, comment cela est-il possible? Yomru Baal Bat Menachim Chamishim, Baal Bat Ezotot Chamishim. Les gens vont dire, celui qui s'est couché avec la fille du roi paye 50, et celui qui s'est couché avec celle qui vient d'une famille simple paye aussi 50. Comment la Torah a dit une telle chose? Amar Le Abaye lui a dit Abaye, Yachig Abe Eved Nami. En suivant ton raisonnement, pourquoi à propos du taureau qui a tué l'esclave, le paiement est toujours le même, de 30 sela, yomru eved nokev margalit shloshim, eved ose maase machat shloshim. Les gens vont s'étonner et vont dire, un esclave de valeur, qui est spécialiste dans le polissage de perles, vaut 30, et un autre qui sait à peine tenir une aiguille, en vaut aussi 30. Et là, ma Rav Zohira, alors Rav Zohira nous donne une autre réponse.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.